ensemble, Angela Merkel, Emmanuel Macron et Jean-Claude Juncker. Depuis la dernière visite de Xi Jinping, il présente un front uni face à une Chine conquérante qui cherche à diviser l'Europe en jouant avec les intérêts particuliers de chaque nation. Quelques jours auparavant, l'Italie surendettée avait déroulé le tapis rouge au président chinois. Comme elle le fait en Asie ou en Afrique, la Chine propose de moderniser des ports italiens, ici le port de Gênes au nord du pays.
Ce sera le premier terminal pour cargo entièrement automatisé au nord de la Méditerranée. Et ça va donner aux Chinois une porte d'accès centrale à l'Europe.
Des investissements que tout le monde ne voit pas d'un bon œil. Craignant que ce programme sème la division au sein des pays européens, Emmanuel Macron se montre très méfiant vis-à-vis de ces tentatives de séduction chinoise.
Évidemment, l'exercice de la puissance dans l'histoire de l'humanité ne va pas sans rivalité. Nul d'entre nous n'est naïf, mais nous respectons la Chine et nous sommes déterminés au dialogue et à la coopération. Et nous entendons naturellement de nos grands partenaires qu'ils respectent aussi l'unité de l'Union européenne.
Se faire respecter en présentant un front uni, c'est aussi le défi qu'il faut relever face à Donald Trump. Depuis son élection, un seul mot d'ordre, America First.
Nous avons un déficit commercial de 151 milliards parce que les Européens nous envoient des Mercedes, des BMW et d'autres produits. Nous leur envoyons des choses et ils disent non merci. Nous ne prenons pas vos produits. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Face à ces coups de boutoir, la tentative est grande pour chaque État européen de faire cavalier seul pour défendre ses intérêts. Face à toutes ces pressions diplomatiques et économiques, l'Union européenne peut-elle faire front ? Dans ce monde brutal, une politique étrangère commune aux 27 est-elle possible ? L'Europe peut-elle imposer sa place parmi les géants du 21e siècle ?
C'est une question de téléspectatrice qui va droit au but puisqu'elle vous demande à quoi sert Federica Mogherini. Elvire Fabry, je rappelle que Mogherini occupe le poste de haut représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères. Et effectivement, quelle est sa marge de manœuvre ? Est-ce qu'elle a, elle peut prendre des initiatives diplomatiques sans avoir à obtenir le blanc-seing de Merkel, de Macron ?
Bah écoutez,
quelles sont ces latitudes ?
Les grandes décisions en matière de sécurité et de défense, c'est vrai qu'elles se font au niveau intergouvernemental, donc avec les capitales. Maintenant, ce que Federica Mogherini a engagé depuis plusieurs années, c'est véritablement un travail de mutualisation ou essayer de mettre en place un système au sein des institutions européennes qui permettent, notamment en matière d'industrie de défense, ouais, à travers les projets PESCO pour mettre en place... PESCO, de coopération structurée permanente, ça a été lancé, en décembre 2017 et ça permet d'essayer de voir comment s'organiser, que ce soit...
Le fait que les Européens ne connaissent pas son nom, ça doit être le cas de la grande majorité d'entre eux, c'est pas un signe d'une défaillance cette organisation.
Elle est là. C'était une innovation du traité, oui, de Lisbonne. Et son poste a été créé pour créer une culture de stratégie de sécurité, d'accord, commune. Donc essayer de rapprocher le fonctionnement des états-majors. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des instruments comme le Fonds de défense européen qui permet d'engager les Européens à investir ensemble en matière de développement et de recherche et de développement et d'avancer sur ces questions-là.
Alors, justement, le fameux chiffre sur les dépenses de défense.
Voilà, 1629 milliards d'euros ont été dépensés par les États dans l'armement. En 2018, la Chine et les États-Unis ont augmenté chacun leurs dépenses de 5%. Alors Martin Quincey, dans cette course à l'armement, est-ce que l'Europe peut tenir le rythme, tout simplement ?
Oui, l'Europe, en fait, a augmenté ses budgets de défense depuis 2014 environ, depuis l'annexation de la Crimée. La question, en fait, plus que le budget, c'est ce qu'on en fait. Avoir un énorme budget, mettre 700 milliards de dollars par an comme les États-Unis, ça ne dit pas forcément quelque chose sur la puissance militaire d'un pays.
Quand vous dites que l'Europe a augmenté son budget, c'est le cumul des États ou
voilà.
C'est
d'abord d'arrêter le déclin du budget, puisqu'on était sur une courbe descendante, et puis petit à petit d'avoir de plus en plus de pays européens qui augmentent le budget, avec cette idée que les pays européens qui sont membres de l'OTAN se sont engagés politiquement à atteindre 2% de leur PIB dans les dépenses.
C'est la règle.
Voilà, d'ici 2024. La France s'est engagée à le faire, alors on peut considérer que l'engagement politique est peut-être un peu faible, puisque ça se passe après la fin du mandat actuel, mais en tout cas, tous les pays doivent normalement augmenter pour atteindre 2%.
Valérie Niquet, vous vous souvenez du mot d'un ancien ministre des Affaires étrangères allemand qui s'appelait Sigmar Gabriel et qui disait « Dans un monde de carnivores géopolitiques, l'Europe est le dernier des végétariens ». Autrement dit, mal barré. Que pense-t-on chez le carnivore chinois de l'Europe? Quelle est la vision de l'Europe?
Effectivement, l'Europe a longtemps joué de son soft power et du fait qu'elle était là avec des nouvelles normes pour un monde postmoderne où la guerre n'avait plus lieu d'être et puis s'est construite sur le rejet de la guerre, en fait. Bon, tout ça est un peu dépassé, c'est peut-être cynique de le dire, mais en tout cas, en Asie, on n'est pas du tout dans cette optique-là. Et alors, pour les Chinois, ce qui est très intéressant, c'est que les Chinois parlent beaucoup de multipolarité, et depuis longtemps, ça faisait beaucoup plaisir à la France, d'ailleurs, à l'époque de Jacques Chirac, un côté très gaullien face aux États-Unis. Mais donc, pour les Chinois, la multipolarité, c'est tout ce qui peut s'opposer à la superpuissance américaine, qui est l'adversaire principal. Donc, si l'Union européenne joue le jeu, est une grande puissance qui soutient la Chine face aux États-Unis, ça va très bien. Si en revanche l'Union européenne a une politique extérieure coordonnée, bon, on en est très loin, mais indépendante, et en tout cas qui ne soit pas forcément hostile aux États-Unis, ça intéresse beaucoup moins Pékin. Donc la Chine va toujours essayer d'établir sa stratégie principale des divisions au sein de l'Union européenne d'abord, et ensuite entre l'Union européenne et les États-Unis, et j'ajouterais entre l'Union européenne et le Japon, par exemple, ou l'Inde, parce que ce n'est pas non plus l'intérêt de Pékin de voir plusieurs pôles émerger en Asie.
Elvire Fabrice, cette stratégie de la division, elle fonctionne, le fait de travailler directement avec certains États européens, comme le fait la Chine, avec notamment l'Italie, la Grèce, elle parvient à diviser l'Union européenne réellement?
Sur le plan commercial, oui, c'est très net. C'est-à-dire que là, on le voit dans le cadre du projet de la nouvelle route de la soie.
Oui, la route de la soie, comme on dit.
C'est une stratégie bilatérale de la Chine. Xi Jinping, on l'a vu là récemment, fait le tour des capitales européennes et c'est un peu une sorte de concours de beauté au pays, à l'État membre qui sera le plus attractif pour les investissements chinois. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose, on a pris beaucoup de retard côté européen. Il y a une sorte de prise de conscience qui s'est faite là depuis quelques années et qui a une amorce de cohésion qui est en train de naître, notamment parce que l'Allemagne elle-même a changé dans sa position. L'Allemagne, qui a beaucoup d'échanges commerciaux avec la Chine et qui maintenant est quand même beaucoup plus alerte et beaucoup plus méfiante des problèmes de transfert de technologie, de protection de la propriété intellectuelle et de...
Moins naïve.
Beaucoup moins naïve. Mais c'est vrai qu'on vient de voir encore récemment avec les investissements en Italie, un État membre important dans l'Union européenne, ça a été un signal d'alerte encore parmi les États membres pour se dire il faut qu'on aille plus vite, plus loin.
Et alors, ça, c'était vu de Pékin, vu de Washington. Oui. Comment nous regardent Donald Trump et les États-Unis? Est-ce que l'Union européenne est un ensemble avec lequel on travaille ou, de la même façon, il faut traiter directement avec les États pour mieux les diviser?
Si on parle de Donald Trump, l'Union européenne n'existe pas, en fait. Au pire, elle est même un acteur un peu hostile, puisqu'elle représente une volonté, un projet politique qui dépasse le nationalisme. Donald Trump l'a dit récemment dans un rallye, je suis un président nationaliste. Il l'a dit durant la campagne du Brexit. Enfin, il l'a clairement exprimé. Pour Donald Trump, finalement, il n'y a pas vraiment d'alliés ou d'amis, il y a juste des relations bilatérales. Il faut en tirer le maximum. Mais le problème, peut-être la faiblesse de Donald Trump, c'est qu'il ne peut pas non plus ignorer l'Union européenne sur tous les dossiers. Et il a besoin des Européens dans son envie de confronter la Chine. Et beaucoup des outils que les Européens peuvent mettre en place pour confronter la Chine, ça se passe à Bruxelles. Donc il a ce problème, c'est-à-dire qu'il ne parle qu'au capital national. Il veut oublier Bruxelles, mais c'est là où en fait, on aurait la clé pour avoir une politique européenne vis-à-vis de la Chine.
Et puis il a une alliance militaire quand même qui le relie à l'Europe via l'OTAN. Ça ne peut pas s'en dégager.
Il peut s'en dégager.
Il aimerait bien.
Voilà. D'un point de vue légal, il peut le faire. Alors on peut trouver de bons arguments pour dire qu'il ne va pas le faire. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de forces au sein de l'administration, dans le Congrès, etc., qui le bloquent. Mais peut-être que quand même la morale de cette présidence Trump, c'est qu'il faut éviter les prédictions et s'attendre à tout.
Alors, on va regarder une archive et on va se rendre compte, grâce à cette archive de 1965, que la question de la politique commune étrangère à l'échelle européenne agite les hommes politiques depuis donc plus de 40 ans. Le général de Gaulle, regardez.
Les politiques sont les politiques des États, et qu'on ne peut pas empêcher ça. Alors vous avez des cris, mais l'Europe supranationale, il n'y a qu'à mettre tous ensemble, il n'y a qu'à fondre tous ensemble, les Français avec les Allemands, les Italiens avec les Anglais, etc. Oui, vous savez, c'est commode, et quelquefois c'est assez séduisant. On va sur des chimères, on va sur des mythes, Mais ce ne sont que des chimères et des mythes. Il y a les réalités. Et les réalités ne se traitent pas comme ça. Les réalités se traitent à partir d'elles-mêmes. Et c'est ce que nous efforçons de faire.
Ah. Elvire Fabry, depuis 1965, est-ce que les choses ont réellement changé? Est-ce que ce n'est pas toujours les États en Europe qui font la politique étrangère? Est-ce qu'il y a une véritable politique étrangère européenne?
Non, on ne peut pas encore parler à propos de politique étrangère en tant que telle. Maintenant, c'est vrai qu'en tout cas, la conscience des menaces extérieures nous ramène à chaque fois à un enjeu, encore une fois, de mutualisation, de capacité. Oui. Et on a eu ces dernières années pas mal de divisions entre une Allemagne qui s'occupait plus de l'Est, une France qui s'occupait davantage du Sud. L'importance de tous les défis qui sont venus du Sud, on mobilisait quand même l'ensemble des Européens. Aujourd'hui, grecque, le sujet, la crise grecque également, le vrai sujet aujourd'hui, c'est la Chine. C'est la montée en puissance de cette Chine et qui a toutes les raisons, là, encore une fois, d'être un facteur permettant de coaliser une position européenne. La Commission européenne, là, récemment, a pris un véritable tournant stratégique dans la façon dont elle a appelé la Chine un rival systémique et appelant justement à des réformes de fond systémiques et appelant à cette cohésion européenne. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer.
Rival systémique, le mot est fort, Valérie Niquet. L'ont-ils entendu à Pékin?
Et je pense qu'ils l'ont entendu avec inquiétude parce qu'évidemment l'intérêt de Pékin n'est pas que ses partenaires prennent conscience de la réalité du système chinois qui effectivement n'a rien à voir avec le nôtre, qui est beaucoup plus ouvert, alors que Pékin contrôle tout, contrôle les investissements, contrôle les transferts de technologies. Et c'est ça l'enjeu d'ailleurs des tensions entre les États-Unis et la Chine. Et le paradoxe, c'est qu'on a des intérêts communs très très forts avec les États-Unis. Ce serait très très... avec la Chine, on a le plus important déficit commercial au niveau de l'Union européenne, même si on est leur premier partenaire commercial aussi. Mais également, tout ce qui est transfert de technologies forcées, tout ce qui est rôle de l'État chinois dans les entreprises, et bien tout ça nous intéresse directement. Donc si les États-Unis obtiennent réellement quelque chose de la part de Pékin, sans parler des réformes éventuelles de l'OMC qui tiendraient compte des spécificités du régime chinois, pour nous c'est intéressant. La question c'est de savoir est-ce que Donald Trump ira jusqu'au bout ou est-ce qu'au contraire il se contentera de déclarations qui lui seraient politiquement favorables mais qui n'aboutiraient à rien de véritablement pérenne.
On reviendra à Trump et la Chine, mais si on revient à la dimension militaire et à l'Europe puissance, Martin Quincé, il y a quand même deux questions qui se posent, celle de l'arme nucléaire et celle du siège au Conseil de sécurité de l'ONU que la France a de façon permanente. Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Europe ou va quitter l'Europe, est-ce que la France doit partager, comme le souhaite l'Allemagne, ces éléments de souveraineté ou est-ce que c'est une illusion qui ne...
Je suis pas sûr que l'Allemagne aujourd'hui souhaite que la France partage l'arme
nucléaire. C'est ce que demande AKK.
AKK n'est pas encore chancelière de l'Allemagne et elle a été quand même très critiquée dans sa réponse à la tribune de Macron sur l'Europe. Je pense qu'aujourd'hui, la France ne veut pas en entendre parler, mais si on parle à beaucoup de pays européens autres que l'Allemagne, ils ne veulent pas non plus en entendre parler de cette question nucléaire. Donc c'est vraiment ouvrir la boîte de Pandore que d'imaginer même un débat là-dessus à court ou à moyen terme. Sur la question du siège permanent au Conseil de sécurité. Il y a quand même, un vrai agacement à Paris de voir cette question remise sur la table, alors qu'on avait parlé en bilatéral avec les Allemands lors du traité de Aix-la-Chapelle, et que c'était un petit peu... on a compris, la France promeut l'idée d'un siège allemand, mais il n'y aura pas d'européanisation. Par ailleurs, et là je ne suis pas spécialiste au niveau légal, mais ce que j'ai entendu, c'est que c'est simplement impossible d'européaniser le siège européen. Pour l'instant, moi, je considère qu'il n'y a pas vraiment de questions.
Donc la puissance militaire, lui, Fabrice, c'est la France en Europe, pour le moment.
C'est la France et le Royaume-Uni, avec ce point d'interrogation qu'il y a toujours sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'on commence déjà à réfléchir à la façon dont on va travailler ensemble. C'est quand même un des gros morceaux du Brexit dont on parle moins que sur les questions commerciales. Mais parce qu'il faudra qu'on continue à travailler ensemble et la demande est réciproque, je dirais, à la fois côté britannique et côté européen.